Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées? Dossier 1. Comment se créent et se développent les entreprises? Le cycle de vie des entreprises. L'entreprise traverse une série d'étapes, il s'agit de son cycle de vie. L'entrepreneur, comme le contexte, joue un rôle capital dans ces étapes. À la création de l'entreprise, son fondateur est souvent le dirigeant. Il est à l'origine du projet, mais n'est pas toujours le seul propriétaire. Durant les phases de développement où l'entreprise trouve son marché, elle ne parvient pas toujours à être rentable, ce qui explique le nombre de disparitions dans les premières années. Si l'entreprise ne réussit pas à se renouveler ou à faire face à la concurrence, une période de crise peut s'en suivre, remettant en cause sa survie. Cela peut aboutir à la fin, à la revente et ou au renouvellement de ses stratégies afin de retrouver une phase de développement et d'expansion. La diversité des statuts juridiques des entreprises et des entrepreneurs. Durant ces phases, l'entrepreneur joue un rôle clé dans l'évolution de l'entreprise. Cependant, les statuts juridiques qui lui sont associés peuvent être très divers selon la nature juridique de l'entreprise, entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas nécessairement le chef d'entreprise, puisque celui-ci n'est pas toujours le fondateur ou même le propriétaire de l'entreprise et peut en être uniquement salarié. Il peut également être élu par ses pairs dans une société coopérative. La diversité des figures de l'entrepreneur. Depuis Joseph Schumpeter, on associe souvent la création d'entreprise à l'entrepreneur innovateur qui prend des risques et rompt avec les routines pour lancer et développer son innovation. Mais la réalité sociale et juridique des entrepreneurs aujourd'hui est beaucoup plus complexe. On peut être indépendant sans être vraiment entrepreneur. Comment les relations sociales s'organisent-elles dans l'entreprise? Les modes d'organisation dans l'entreprise. Pour permettre le fonctionnement quotidien de l'entreprise, son organisation s'appuie sur diverses formes d'autorité. Le plus souvent, elle s'appuie sur la hiérarchie et donc sur une structure de pouvoir formelle et structurée que l'on peut représenter par un organigramme qui reflète plus ou moins la réalité. Lorsque l'autorité est concentrée au niveau hiérarchique supérieur et détenue par un nombre très restreint de responsables, il y a centralisation. Si au contraire, l'autorité est partagée par un nombre important de responsables et s'étend jusqu'au niveau hiérarchique inférieur, on parle alors de décentralisation. La gouvernance des différentes parties prenantes dans l'entreprise. Un des défis rencontrés par les dirigeants d'entreprise est de rendre compatibles les nombreux intérêts divergents des diverses parties prenantes. Celles-ci comprennent les propriétaires de l'entreprise, ses actionnaires, ses dirigeants, managers, ses salariés, mais aussi des acteurs externes tels que ses clients, ses fournisseurs, ses créanciers. Or, ces différentes parties prenantes n'ont pas forcément les mêmes intérêts, ni la même vision des objectifs de l'entreprise, ni le même niveau d'information. C'est pourquoi une gouvernance d'entreprise est nécessaire. On distingue deux grands modèles de gouvernance. D'une part, le modèle partenarial de gouvernance, qui vise à associer l'ensemble des parties prenantes, stakeholders. D'autre part, le modèle actionnarial, qui correspond au modèle dominant et dans lequel il s'agit de sécuriser les placements financiers des actionnaires, shareholders. L'entreprise entre coopération et conflit. La coopération peut passer par différents moyens. Il existe notamment au sein de l'entreprise des instances officielles de représentation du personnel, comité social et économique, délégué syndical, qui constituent des vecteurs importants de négociation et de coopération dans l'entreprise. Mais ceci ne va pas nécessairement de soi, puisque la firme n'est pas exempte de conflits entre toutes ses parties prenantes. Les plus connus, car les plus spectaculaires, sont les conflits du travail. Mais cela peut se traduire par d'autres types de conflits ou de divergences d'intérêts entre parties prenantes, par exemple entre actionnaires et salariés.